Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de focus réalisée avec Virginie de Bongrimouillon. Suite à un vote sur Instagram, vous avez choisi les sujets et l'ordre des sujets traités. Nous les avons réalisés en une seule après-midi, c'est pour ça que je vous invite à les écouter dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Vous pourrez retrouver le numéro dans le titre de l'épisode. Je vous souhaite autant de plaisir à les écouter que nous avons eu à les réaliser. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Virginie.
Bonjour Cédric.
Merci de me rejoindre pour ce deuxième focus qu'on avait proposé et qui a été voté par les auditeuristes et les gens qui nous suivent sur Instagram.
Avec
donc
grand
le
plaisir.
Sujet, ce coup-ci, c'est la motricité libre. Mais qu'est-ce donc la motricité libre ?
Mais qu'est-ce donc que cette chose ? La motricité libre, alors, en une phrase, si on devait résumer, c'est de ne pas mettre l'enfant dans une position qu'il n'a pas acquis de lui-même. C'est-à-dire que et la motricité libre, c'est vraiment de tous les âges. Et on verra après, je ne peux pas en parler tout de suite, mais à 8 ans, pour moi, je parle encore de motricité libre dans ma tête. C'est encore le même concept qui m'accompagne pour mon enfant de 8 ans. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Donc, quand il est tout petit bébé, l'enfant, il va être mieux sur le dos puisque c'est sa position de repos de base. On va le laisser évoluer, découvrir son corps. Donc le rôle de l'adulte autour, ça va être de lui donner un espace sécurisé. Parce que quand il va commencer à crapahuter un petit peu, il ne faut pas que le vase lui tombe dessus ou qu'il mange des plantes toxiques, quoi. Donc d'offrir un lieu adapté et sécurisé à l'enfant. Des jouets, des objets, je pense surtout quand ils sont tout petits, quand par exemple on va poser un tout petit bébé qui commence à essayer de se retourner un petit peu ou qui commence à gigoter un peu, qui est sur le dos. Alors on va éviter des choses au-dessus parce que ça va pas forcément le porter à découvrir son corps s'il est passif à regarder quelque chose immobile ou quoi. Si on veut, on tient à mettre immobile, si on veut suivre scrupuleusement la méthode Montessori par exemple, et que du coup on se sent obligé de mettre immobile, alors il vaut mieux le mettre. Alors ça, je me rappelle, c'est une psychomotricienne qui est venue m'en parler. Je pourrais même pas dire son nom, ça fait longtemps. C'était par mail et du coup j'ai trouvé ça très intéressant. On va éviter de mettre le mobile au-dessus de la tête, c'est-à-dire que on va toujours essayer d'inviter l'enfant à être mobile, à tourner sa tête, à aller chercher quelque chose. Donc, quand on met des petits jouets, on va en mettre peu, très peu. Un ou deux suffisent largement au niveau de sa tête pour qu'il puisse de lui-même tourner, avoir envie d'aller essayer d'attraper. On évite les jouets trop stimulants, qui font du bruit, qui font de la lumière. Ça ne sert à rien du tout. Ça sert à faire plaisir à l'adulte, mais l'enfant, lui, a un objet en bois. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant au niveau du toucher, c'est hyper intéressant au niveau de l'odeur, c'est hyper intéressant au niveau de la texture, de la vision. Enfin, il n'y a pas besoin de plus pour un enfant, au contraire même. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur la motricité libre ? L'adulte, oui, c'est important de rester attentif à l'enfant, hein, ça ne va pas. La motricité libre, ce n'est pas poser un enfant et aller faire son truc de son côté. Tout comme le jeu libre, pareil, enfin tout ce qui est libre, à peu de choses près, hein. C'est le parent, il a un rôle très important, surtout ça va être d'observer pour pouvoir après proposer un environnement, proposer des objets, proposer des choses qui vont être en lien avec le développement de son enfant. Et voilà en gros comment on pose la motricité libre. Et maintenant, à quoi ça sert la motricité libre ? À quoi ça sert? Alors, ça sert avant tout, en fait, à permettre à l'enfant de se développer harmonieusement. C'est-à-dire que chaque enfant va avoir, en gros, son chemin de développement personnel. développement personnel, si on peut le dire. Son chemin de développement moteur, on va dire, personnel, global. bon, ça va se rejoindre d'un enfant à l'autre. Hein. On va en gros passer par voilà, le dos, puis l'enfant va réussir à se retourner, à dégager son petit bras enfin pour pouvoir se retourner, se mettre sur le ventre et relever la tête, voir le monde sous cet angle. Et puis ensuite, il va ramper, ensuite, il va découvrir le quatre pattes, enfin, ou les quatre pattes à l'envers au début, le quatre pattes à l'endroit, enfin, on marche avant, on marche arrière. Et puis ensuite, céder des objets de la maison pour se mettre debout, pour ensuite, ben voilà, acquérir la marche, etc. Bon, c'est pas, ouais.
J'ai une question pour toi, pour le coup, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un parent qui me disait justement, on parlait de motricité libre, et il me disait, par contre, moi, ça m'inquiète parce que ben, mon gamin, il se met assis sans problème, mais en fait, il a commencé à se mettre debout sans faire et à faire du quatre pattes après.
Ouais.
Tu vois, il se mettait debout en s'accrochant à des trucs et à faire du quatre pattes après. Il me dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois aller voir un spécialiste?
Ouais. Ça, c'est comme la dent qui pousse en haut plutôt qu'en bas au début. C'est pas grave. Ça arrive. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un développement harmonieux. C'est son développement harmonieux. Mon deuxième, il a fait ça d'ailleurs. Il s'est mis debout avant de se mettre à quatre pattes. Donc, il rampait jusqu'à un barreau de chaise. Et ensuite, il se hissait sur le barreau de chaise et il était là sur ses petites jambes frêles, debout. Et moi, un peu paniquante derrière, donc je mettais un tapis derrière, je le suivais un petit peu partout. Mais oui, ça arrive. C'est-à-dire que le schéma que j'ai donné, c'est un schéma qui est général. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Mais voilà, chaque enfant va se mettre. Alors après, quand on dit, par exemple, ouais, mon enfant à moi, il a fait assis, avancé assis, quoi. Donc généralement, l'enfant qui avance assis, c'est qu'il n'arrive pas à se défaire de cette position-là. S'il n'arrive pas à se défaire de cette position-là, bah alors si c'est nous qui l'avons mis dans cette position-là, c'est normal du coup, parce que de base, l'enfant, il porte à se mettre debout. C'est-à-dire que si jamais on met un enfant assis avant qu'il ait acquis cette position de lui-même, je dis lui pour tout, je parle d'un enfant. C'est valable pour les filles, hein.
Oui, nous sommes sur une discussion où l'inclusion n'est pas
Oui,
permanente,
c'est
hein.
ça.
Désolé.
Oui, si on va positionner un enfant assis, la problématique au-delà de muscler les mauvais muscles, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas forcément lui servir tout de suite ou pas de la bonne manière, ça va être de lui montrer, de voir le monde assis. C'est-à-dire que l'enfant, lui, une fois qu'il s'est mis sur le ventre et qu'il a commencé à regarder comme ça un peu plus haut, il ne va pas revenir de lui-même, hormis pour se reposer un petit peu, mais de lui-même, il ne va pas revenir sur le dos à rien faire. Il sera tout le temps sur le ventre, il essaiera toujours de se mettre sur le ventre. Ça va être pareil pour la position assise, où on dit par exemple, ouais, je l'ai posé assis, mais maintenant il s'ennuie, il râle si je le mets sur le ventre. Ben oui, parce qu'en fait, lui, c'est complètement insensé pour lui de revenir en arrière. Donc, il va vouloir être assis, etc. Donc, dans ce cas-là, si jamais on a positionné assis et que l'enfant commence même à se déplacer parce qu'il n'arrive pas à sortir de cette position, parce qu'il l'a pas acquise par lui-même. Du coup, et ben faut rester, faut être un petit peu plus présent avec l'enfant, le mettre sur le ventre, jouer avec lui, se mettre au sol, c'est important ça. Quand on est en motricité libre avec son enfant qui est encore au sol, ah ben faut pas hésiter à s'allonger par terre, quoi. Faut pas être sur la chaise à côté en attendant que son enfant se débrouille ou découvre son corps. Faut être acteur dans la communication avec lui, jouer avec lui, lui parler, être présent. C'est ça qui va porter l'enfant à être plus patient et surtout quand il a été positionné assis avant, quoi.
Moi, je faisais beaucoup de roulades, je me
Ah
rappelle.
oui.
Je m'allongeais sur le ventre et puis je
Bah
roulais, tu
oui.
vois, comme ça,
Bah oui, c'est ça.
pour les
Ouais,
montrer.
c'est bien, ouais.
C'est beaucoup marré.
C'est sympa de montrer ça par l'exemple aussi, ouais. Par les neurones miroirs qui vont du coup
Ouais.
reproduire la même chose sans s'en rendre compte. Bon, en parlant de neurones miroirs, juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais qui me fait rigoler. Bon, après, ça a à voir dans le sens où quand on observe un enfant, on voit plein de petites choses. Des choses que je ne voyais pas du tout avec mon premier enfant. Par exemple, j'étais chez l'ostéopathe il y a 2 jours et donc ma fille était passée avant et je suis passée ensuite. Et donc, elle était dans les bras de son papa et elle me regardait. Donc elle a 3 mois et des brouettes, quoi. Et l'ostéopathe me fait des manipulations, donc il me demandait, il me faisait quelque chose sur l'épaule, et il me demandait de monter le bras et de le bouger. Donc je montais le bras, je faisais des petits ronds, je leur descendais, je montais le bras, je faisais des petits ronds, je leur descendais. Et j'ai fait ça 3, 4, 5 fois. Et puis à un moment donné, l'ostéo, il s'arrête, il la regarde, et je dis, oh ben c'est rigolo, elle est en train de reproduire exactement le même geste. Et à chaque fois que je montais le bras, à chaque fois, il montait son bras, quoi. C'était rigolo.
À trois mois, quoi.
Et ça m'était arrivé
non,
avec
ouais,
ma cousine
marrant.
Aussi, qui portait sa petite, qui avait exactement le même âge. On était en train de manger, on était à table, la petite était dans ses bras, elle mangeait, et la petite n'arrêtait pas de fixer. Au début, j'ai vu, elle fixait sa main qui allait jusqu'à sa bouche. Et elle refixait sa main, hop, et la fourchette revenait à l'assiette, elle revenait à la bouche. Et puis, à un moment donné, eh ben, elle a fait exactement le même geste de mettre sa main à sa bouche, d'enlever sa main de sa bouche, de mettre sa main à sa bouche, d'enlever sa main de sa bouche. Voilà. Et quand on fait la motricité libre, pour en revenir au sujet, ces observations, ces temps d'observation, ils permettent justement à l'adulte de sentir qu'il sert à quelque chose, de sentir utile, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais moi, je ne sers à rien. Par exemple, la grand-mère qui ne veut pas... bon, là, j'ai parlé du petit au sol. Mais par exemple, quand à l'apprentissage de la marche, là où l'enfant va se déplacer en se tenant au meuble, par exemple, donc il est debout, mais il ne se lance pas encore, il n'a pas encore la musculature, il ne se sent pas. Donc voilà, pour faire confiance, ce n'est pas le moment pour lui de se lancer, c'est que ce n'est pas encore le moment. Et que automatiquement, voilà, les grands-parents, les oncles, les tantes qui sont d'une très bonne intention vont me dire bah, attends, je vais le faire marcher un petit peu, donc plus prendre les mains et puis le faire avancer. Et forcément, ça plaît à l'enfant. Hein, c'est pas, lui, son but, c'est d'avancer, c'est de se monter. Donc voilà, ça va plaire forcément à l'enfant, mais ça va pas forcément lui servir dans le sens où il va perdre la capacité de se dire je peux y arriver seul. Ça va être une autre chose dont on va parler, mais au-delà de. Du développement harmonieux, de ne pas griller les étapes, la motricité libre apporte aussi ça, c'est-à-dire la confiance que l'enfant va se porter, va avoir en ses propres capacités, c'est-à-dire je suis capable de le faire. Si dès tout petit, chaque acquisition, il l'aura fait lui-même, seul, ça peut être avec de l'aide, via avec un parent présent, un parent qui va l'encourager, ouh là là, c'est difficile de se retourner, hein. Ou alors, moi je me rappelle quand mon deuxième, donc là j'avais conscience un petit peu de tout ce développement, quand mon deuxième s'est mis sur le ventre, mais c'était, j'étais tellement fière de lui, quoi. Beaucoup plus fière que quand mon aîné avait marché, pour le coup, quoi. C'était, mais oui, pour moi c'était une étape tellement importante au moment où de lui-même il a réussi à se retourner. Ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'il se retournait à moitié, il y avait les fesses qui étaient retournées, mais il y avait le petit bras coincé, et puis bon, des fois il restait coincé, alors je l'aidais à se repositionner sur le dos, et toujours en conscience, en lui parlant, et là c'était, voilà, il s'est mis sur le ventre, quoi. Et toutes ces choses-là vont apporter à l'enfant justement une confiance en lui, en ses capacités, et l'adulte, lui, observateur, qui remarque ça, j'ai pas eu l'impression d'être inutile, quoi. Je veux dire, quand il a vu mon visage, alors je lui ai pas dit bravo ni rien, mais là pour le coup, j'aurais pu sauter de joie et lancer des cotillons en l'air, quoi. C'était, il aurait compris, quoi. Je veux dire, quand il a vu mon visage, il avait quoi, peut-être 6 mois, un truc comme ça. Il m'a regardé, mais il était, trop fier. Tu voyais la fierté sur un visage d'un tout petit, c'était beau à voir, quoi. Donc dans ces moments-là, on se sent pas inutile, en fait. On a conscience de ce qui se passe, on a conscience de où il en est, de où l'enfant en est. Et voilà, et du coup, on apporte ce qu'il faut au bon moment, quoi.
Et donc, pour le coup, la motricité libre, ça développe quoi comme élément essentiel ?
Je disais, de ne pas griller les étapes, déjà, parce qu'en fait, chaque étape, on ne s'en rend pas compte. Alors, moi, je ne suis pas psychomotricienne, mais une psychomotricienne pourrait en parler, je pense, des heures, avec beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, celle que j'ai croisée, ça a toujours été... des personnes très très impliquées et qui aimaient leur travail et qui ont su, avec des discussions, me transmettre ça aussi. Et voilà, donc je peux donner des grandes lignes, comme par exemple le fait de passer par le quatre pattes, d'aller chercher un objet sans que quelqu'un nous l'apporte, de ramper. Donc ça va permettre le développement, pas seulement en fait, des muscles pour arriver à la marche, mais ça va permettre énormément de connexions dans le cerveau qui vont, par exemple, servir à l'enfant ensuite à la motricité fine, à l'écriture, à la relation à l'espace, à la latéralisation, je crois, ça s'écrit comme ça, je le dis comme ça, il me semble. Le fait, oui, c'est ça. Hein. Le fait, en fait, c'est le fait de savoir quel côté est notre côté. En gros, quel côté, avec lequel côté on se débrouille le mieux et par où on va passer pour être le plus efficace, quoi. Voilà. J'ai aussi appris il y a quelques mois que le rapport à l'espace, par exemple, quand on met un enfant dans un parc tout le temps, donc il n'a pas la possibilité, qu'il n'a jamais la possibilité de découvrir son environnement, eh bien, plus tard, ça peut provoquer une difficulté à faire plusieurs choses à la fois. Parce qu'en fait, quand on se déplace, on laisse des choses. Quand un enfant se déplace dans un lieu assez grand, il laisse des choses derrière lui, qui ne sont plus à sa portée, qui ne sont plus là, mais qui restent là. C'est-à-dire qu'il garde, il développe petit à petit la conscience de son jouet qu'il ne voit plus, qu'il ne sent plus, qu'il n'est plus à côté de lui, existe encore. Et donc, quand il veut y revenir, et ben forcément, il est en train de faire ça, donc il est en train, mais il a conscience qu'il y a ça encore qui existe derrière. Donc bien sûr que c'est une conscience qui n'est pas la même que l'adulte, hein, ça, c'est justement là que ça se construit. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Et d'ailleurs, nous-mêmes, dans des petits lieux, même si c'est une grande pièce, ça reste un petit lieu, un petit espace. Et quand l'enfant grandit, ben, on est fait pour être dehors quand même. L'humain est quand même fabriqués pour vivre dehors. Et les espaces sont trop petits, en fait, pour que notre cerveau se développe vraiment au maximum de ce qu'il pourrait se développer. Il faudrait être dans les bois, il faudrait être au milieu des bois, quoi. Mais bon, pour les tout-petits, c'est largement suffisant, une grande pièce, pour que, justement, ils développent tout ça. Voilà, qu'est-ce que ça peut apporter d'autre? Qu'est-ce que je pourrais... Le rapport au temps, oui, le rapport au temps, le rapport à l'espace, latéralisation, j'en ai parlé... l'exploration de ces mouvements suffisantes, oui, ben, je pense surtout, bon après ça peut être aussi quand, dans un parc, mais ça peut être, je pense, dans les transats où ben, on remarque bien, j'ai fait une affiche où on voit bien l'enfant qui est complètement contenu dans un transat et à côté de ça, l'enfant qui est au sol et qui bouge. Et là, je lui ai fait 6 bras et je ne sais pas combien de gens, enfin, pour montrer qu'il y a un mouvement, donc une conscience du corps qui est là. Moi, je vois mon conjoint, il va rigoler quand il va entendre ça, mais qui se cogne partout, tout le temps, en fait, quoi. Parce qu'il n'a aucune conscience de l'espace de l'espace qu'il occupe. J'avais une amie, pareil, qui me disait que non, c'était sûr qu'elle n'avait pas été en motricité libre, en tout cas, qu'elle n'avait pas eu l'occasion de découvrir son corps quand elle était petite, et elle échappait tout le temps. Elle se disait maladroite, mais en fin de compte, c'est juste qu'il y avait des connexions qui ne s'étaient pas faites dans son savoir. Bien sûr, on peut retravailler ça adulte, hein, mais voilà, ça permet... Toutes ces choses-là, ça permet à l'enfant de pouvoir développer cette conscience de son corps, cette conscience de ses capacités physiques, cette confiance en lui. Donc, la confiance en lui, je l'ai vue plus après. Peut-être que tu voulais déjà faire un point là-dessus, non?
Moi, en fait, ce qui m'a... Enfin, c'est passionnant, tu vois. Là, c'est vrai que je me laisse porter parce que ça... J'adore t'écouter parler de tout ça. C'est très riche. Moi, en tout cas, le souvenir que j'ai vraiment dans la motricité libre, je pense que le souvenir qui m'a le plus interpellé, c'est le moment où on est passé au bain libre. Et ça, le bain libre, tu vois, parce que tu penses, tu veux raconter ton affiche avec les bras qui s'agitent et les jambes, mais alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu as passé de cette baignoire où l'enfant, il est tout serré, tout engoncé, tout contenu, à un moment où, ah, je peux bouger, puis, ah, mais il y a de l'eau, puis ça fait clap-clap, et puis c'est rigolo. Tu vois, et je me rappelle j'ai des vidéos où tu vois ma fille qui est morte de rire parce que on est dans le bain libre et puis tu sais, moi j'ai un petit bol et je lui fais couler de l'eau à plus ou moins haut, à plus ou moins fort, à différentes parties du corps. Et là, tu vois, quand tu disais on peut être super actif, bah oui, on peut, là on est très actif. Et après, je sais que pareil, tu vois, dans le fait d'être actif, il y a aussi, je trouve, tu vois, tu parlais de la fierté, de la connexion. Mais justement, c'est aussi, pour moi, c'est aussi un outil pour créer et renforcer le lien d'attachement. Tout à tu fait. Vois.
Ben oui, parce que du coup, en observant son enfant, on crée tout plein de connexions. C'est-à-dire qu'on ne l'observe pas comme on regarde la télé, on l'observe et on est avec lui, quoi. Et quand on l'encourage pour se retourner ou quand on va se réjouir parce qu'il a passé une étape qu'on sait importante dans son développement, et ben, il va y avoir, comme tu dis, un lien. Un lien émotionnel qui se crée, c'est pas un lien informatif, voilà, pour moi informatif, hop, il a passé cette étape-là, on passe à cette étape-là. Non, c'est un lien émotionnel qui va se créer entre les deux, donc ça va renforcer encore plus la confiance en lui, dans le sens où non seulement on va montrer, il va attacher ses acquisitions à quelque chose de très positif. Donc ça, c'est valable en motrice télé, mais tout le temps, parce que bon, je connais pas beaucoup de parents qui se sont pas réjouis quand leur enfant marchait. Mais justement, de décomposer tout ce développement moteur en plein de petites choses, en plein de petites acquisitions, vous permettre de se réjouir beaucoup plus que... Donc, c'est un cadeau pour nous, parce qu'on a encore plus de moments de joie. et en plus, on envoie le message à l'enfant, lui dire « je te fais confiance, tu es capable de le faire, je te fais confiance. » Donc, en fait, ça lui envoie juste le message « ma figure d'attachement me fait confiance, donc je peux me faire confiance. Enfin, »
Moi, je me rappelle d'un moment hyper, hyper important dans sa motricité. Enfin, en tout cas pour moi, tu vois, important pour moi, ouais. Ça a été le moment où elle a voulu monter des escaliers. Mmh. Elle devait avoir 8 ou 9 mois, je crois.
Ça aussi, c'est une fierté.
Alors attends, parce que si tu veux, je te fais la scène. Il y avait ma compagne qui était en haut des escaliers, tu vois, qui ouais. était la motivation suprême. Allons chercher les tétons tout en haut des escaliers. et la petite voulait les monter. Et moi, si tu veux, j'étais derrière. Mais alors, si tu veux, il y avait vraiment ce côté... En mode, parce que tu vois, on a parlé dans un autre épisode du parent parfait qui peut douter.
Oui.
Mais là, en fait, il y avait vraiment ce truc où je me disais, elle peut le faire, c'est bon, t'as une main derrière les fesses, t'as une main sur le côté,
ouais.
tu l'accompagnes. Et je lui disais, vas-y, continue ma chérie. Alors des fois, tu vois, pareil, tu peux poser ton pied ici, ta main là, tu vois, quand tu sens qu'elle est dans le doute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais au fond de moi, j'étais aussi en mode « Oh là là,
tomber,
oh là
tomber,
là,
tomber,
qu'est-ce
tomber.
Qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Je le dis pas, mais je le ressens.
Ouais.
Et quand t'arrives en haut, mais t'as cette espèce d'explosion, alors je sais pas quelle hormone c'est, mais cette explosion de quelque chose de très positif.
Ça doit être aussi, elle est toujours partout.
Ouais. C'est ça, où t'es fier d'elle,
ouais.
Mais aussi où t'es vachement fier de toi, tu vois. Parce que tu as réussi à l'accompagner de manière très positive et où c'est fou, quoi.
Ouais, quand même.
Et là, tu crées quelque chose d'exceptionnel, je trouve.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, donc tout à l'heure, je voulais aborder aussi la confiance qui se développe j'ai remarqué un petit peu après. C'est par exemple quand il était plus grand. Par exemple, je parle de mon aîné parce que c'est avec lui que j'ai découvert vraiment, j'ai commencé à observer tout ça. Et quand il a commencé, par exemple, à aller vouloir chercher un fruit sur la corbeille de fruits qui était sur la table, et ben pouf, il va chercher sa chaise, il monte sur sa chaise, hop, il chope son fruit, descend de sa chaise et c'est fini, quoi. Et je me dis, mais à aucun moment il s'est dit, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ça. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et donc j'ai continué à garder cet esprit, cet état d'esprit dans ma tête en me disant, laisse-le faire, observe, et attends qu'il te demande s'il a besoin. S'il a besoin, il te demandera. Et par exemple, je ne sais pas, quand il a commencé à descendre les escaliers de face, moi j'ai quand même, j'ai peur qu'il tombe. C'est un truc voilà, qui fait partie de mes peurs, je ne sais pas d'où ça vient, bref. Donc du coup, dans les escaliers, on a mis une rambarde à sa hauteur parce que il voulait plus descendre de dos à quatre pattes, donc il fallait bien lui mettre un outil au cas où. Voilà, il avait quelque chose pour se tenir, etc. Et puis donc il a commencé à descendre et à un moment donné, il voulait plus. Et là, je me suis trouvée un peu face à oui, mais tu pratiques la motricité libre, donc t'as pas le droit de le prendre, tu vois. C'était la petite voix de comme tu disais le truc de je sais ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut, ce que je pensais qu'il fallait que je fasse, c'était ça. J'étais vraiment dans la motricité libre à fond, donc je ne dois pas le prendre. Et à côté de ça, oui, mais il me demande. Et après, au bout de quelques fois, je me suis dit, mais bien sûr, je veux dire, la motricité libre, c'est pas de ne pas prendre son enfant. Et s'il me demande, je le prends, c'est tout. Quoi. Y a pas de... Par contre, je ne vais pas lui prendre les mains pour lui faire descendre les escaliers. C'est-à-dire que ça, c'est son truc. S'il ne se sent pas descendre les escaliers, c'est OK. Et je le fais encore avec mon enfant de 5 ans. Quand il veut grimper quelque part, il me dit « Maman, je veux grimper », que son grand frère, il est tout au-dessus. Je lui dis « Bah écoute, si tu ne te sens pas capable de grimper, bah, c'est que ce n'est pas encore le moment pour toi. Moi, je ne veux pas te mettre là-haut parce que je ne sais pas si tu seras capable de descendre. » Bon, ce papa le fait. Et souvent, bah, il se retrouve coincé, il demande à ce qu'on vienne le chercher. C'est prouvé. mais voilà, moi c'est clair avec moi, je veux pas, je continue sur le principe, je te mets pas dans une position dans laquelle tu peux pas te défaire seul et que tu peux pas, dans laquelle tu peux pas arriver seul. Et du coup, bah, ça permet à l'enfant, il comprend très bien. C'est bien sûr que ça peut des fois être frustrant de voir son frère qui est tout là-haut et tout ça, mais quand je lui dis écoute, si c'est tu pourras revenir, tu sais, quand ton frère, quand il était, quand il avait ton âge, ben, il n'arrivait pas encore à faire ça. Donc, je comprends que toi, ce n'est pas encore le moment pour toi. Et bon, généralement, ça n'a jamais donné lieu à des crises de frustration, en tout cas, quoi, chez nous. Mais oui, donc je continue. Tu vois, j'ai encore, à 5 ans, je suis encore sur ce mode de global, en fait. Ce n'est pas une idée arrêtée, c'est... Justement, je vais lui faire confiance et puis je vois que ça a beaucoup de répercussions sur leur confiance en eux, sur je suis capable, sur leur conscience aussi. C'est-à-dire que ils font pas les casse-cours entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, ça reste une grosse étiquette que je déteste. Mais ils vont pas se mettre en danger. Ouais. Je les ai jamais vus se mettre en danger et ça a toujours été une fierté pour moi de les voir dire non, je me sens pas capable pour sauter quelque part, etc. Et du coup, ça me porte moi à... C'est un cercle vertueux parce que ça me porte moi à leur faire confiance quand ils me disent si ça, je suis capable de le faire, alors que moi je flippe, j'ai les jambes qui tremblent et ça va pas, et j'ai des choses horribles qui m'arrivent dans la tête et tout ça. Et je me dis, attends, s'il te dit qu'il est capable, c'est qu'il est capable en fait, quoi. Donc laisse le faire. Donc je laisse faire et il me prouve qu'il est capable. Et en effet, et là je me dis, ben, j'ai eu raison de lui faire confiance, quoi.
Moi aussi, tu vois, j'ai des exemples comme ça avec ma fille, bon, qui est bien moins âgée, mais genre la première fois qu'elle a monté un escabeau.
Oui.
Tu vois, un vrai escabeau, un grand, elle devait avoir, je sais pas, elle devait avoir 1 an et demi. En plus, on a fait des photos, donc notre famille nous a dit qu'on était des grands malades. Mais en fait, si tu veux, elle s'est placée devant l'escabeau, elle me dit « Je monte ». Ok. Et elle y va, et c'est vrai que la première fois, si tu veux, elle a monté une marche de marche. Et puis elle a dit stop, puis elle, ok, ouais. Elle est redescendue, ouais. Et c'était ok. Et puis bon, la fois d'après, elle est montée tout en haut et on était méga flippés. Mais on était là, si tu veux, c'est pareil. Et c'est vrai que c'est super chouette de les voir faire ça. Et je te rejoins dans l'idée où il y a une vraie conscience de soi et de son corps et de ses possibilités et de ses capacités. Et à un moment, peut-être, et j'ai envie de te dire, peut-être même qu'il y a un moment où il est capable ou elle est capable. Et où juste elle le sent pas, et c'est ok aussi, tu vois. Donc faut
après, faut laisser faire, quoi. En contrario, tout ça. Il y a aussi les exemples que je trouve. Alors moi, j'ai jamais vécu ce type de situation, mais par exemple, oui, mais il se met en danger, il grimpe, et il se met en danger. Quand ils sont tout petits, oui, ils peuvent aller très très haut, et en effet, là, ça peut être dangereux s'il n'y a pas de quoi amortir au cas où, quoi. Ça peut paraître dangereux, en tout cas quand on lit le concept du continuum, on se rend compte que pas forcément du coup, mais que la peur elle est en nous. Mais bref, voilà, je vais pas aller dire de laisser les enfants grimper n'importe où sans assurer une sécurité. Au contraire, on va voilà, tant que ça va pas en fait les empêcher d'aller dans la découverte. Donc on accompagne. Alors, bah oui, c'est être là. Alors, la motricité libre demande un peu plus de présence, du coup, quand l'enfant est dans la volonté de découvrir quelque chose. Par exemple, un enfant qui va être dans « je veux monter des marches d'escalier », enfin, moi, je l'ai vécu, ça, bah, il ne va pas s'arrêter tant qu'il ne les aura pas montées, quoi. C'est-à-dire qu'il ira tout le temps. Alors, on peut mettre des barrières, des trucs, des machins, mais c'est d'autant plus dangereux, parce que dès qu'on aura le dos tourné, à un moment donné, à un moment d'inattention, il sera là-haut, et il n'aura pas forcément les capacités nécessaires, puisque bah, il n'aura pas eu la possibilité de pouvoir s'entraîner sur des choses plus petites avant, etc. Donc c'est important d'être disponible pour que, quand c'est le moment pour l'enfant, et bah, de lui permettre de découvrir ça. Donc, ce n'est pas forcément à la seconde, je veux dire... C'est pareil, j'essaie de toujours tempérer un petit peu, parce que c'est vrai que les discours comme ça, ils peuvent vite être tournés du bah, s'il veut, c'est maintenant et ou jamais, quoi. Genre, si mon enfant, je lâche tout, j'étais en train de faire leur pas, je lâche tout, il faut y aller tout de suite. Pas forcément, mais il faut être en conscience que bah, c'est un moment, en ce moment, bah, voilà, c'est quelque chose qui l'intéresse, donc il va falloir faire des allers-retours dans les escaliers, quoi.
Il y a une expérience qu'il a envie, qu'il ou elle a envie de réaliser. C'est important
C'est
que
ça.
de pouvoir le faire. Et là où je te rejoins, c'est que souvent, tu vois, nous, par exemple, l'escalier, chez nous, l'escalier, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Et la petite, jamais, 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 elle a tenté sans qu'on soit présent, sans nous appeler, sans nos machins, sans. Et pour autant, il y a des fois, elle nous dit, je veux monter l'escalier. Et on est occupé, on dit très bien, après ça, si tu veux, j'arrive. Et toujours, elle attend. Parce qu'il
C'est
y a
ce que
aussi, c'est une
j'allais dire, ouais.
confiance, tu vois, qui est créée. C'est, ils ont dit, papa ou maman m'a répondu qu'après ça, il allait arriver. Bon, ben, j'attends un peu. Je dis pas qu'il n'y a jamais de moment d'impatience. Ah, attention, hein. Mais globalement, il y a cette, y a, c'est ok, très bien, ça va se passer.
C'est ça.
Bon.
Et puis aussi, le fait qu'elle ait plein d'exemples, j'imagine, de ces moments où vous l'avez accompagnée. Dire que tu vas lui dire oui, je vais être là, elle sait que c'est déjà arrivé, c'est des choses qui arrivent, elle sait que du coup que ça arrivera. Ce qui est beaucoup plus facile. Voilà. Et
C'est ça.
c'est vrai que du coup, pour un enfant qui n'a pas eu forcément l'habitude, ça va être beaucoup plus difficile. L'impatience et la frustration sera peut-être plus difficile à ce moment-là, parce que bah, justement, il n'y aura pas la possibilité de se dire que vraiment ça va d'être rassurant, quoi.
Après, tu vois, pareil, il faut qu'on soit OK, c'est quand même un petit peu tous les sujets de parentalité. Il faut trouver l'équilibre entre ce qu'on peut voir, ce qu'on aimerait et ce avec quoi on est OK. Je sais que moi, par exemple, tu vois, j'ai vraiment ce souvenir de ma compagne qui montre, en parlant de motricité libre, qui montre des bébés de 12 mois en train de grimper à des murs d'escalade qui vont très haut, enfin très haut en tout cas, au moins aussi haut que moi, je suis à 1,93 m, et où je m'étais dit, waouh, ça m'éclate, ça a l'air génial, j'aimerais bien le faire. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait, mais tu vois, pareil sur ces vidéos, je sais que j'en ai vu plusieurs, et tu vois, pour donner un exemple tout bête, il y en avait où il y avait l'adulte qui était à côté, d'autres pas à côté. Il y en avait où il y avait des adultes, où il y avait des tapis au sol, d'autres où c'était du dur en dessous. Et moi, je m'étais dit, ben moi déjà, si je dois le faire, je mettrai un amorti en dessous. Je sais que
C'est
tu as
ça.
ma limite, elle est là. Clairement, je veux être à côté, quoi.
Oui, parce que c'est vrai que la motricité libre, quand ils sont tout petits, ça va. Mais quand ils commencent à être plus grands et à se mettre dans des situations qui nous paraissent dangereuses, ou qui peuvent l'être des fois,
Ouais.
c'est vrai que là, ça va être un travail sur soi déjà de lâcher prise, de confiance en son enfant. Et aussi, on a le droit de dire, bah, écoute, là, avec moi, c'est pas possible. Moi, ça me fait vraiment trop peur. C'est important, je pense, de rester aligné avec soi-même. Je sais que les enfants, ils peuvent pas faire la même chose avec leur grand-mère que ce qu'ils peuvent faire avec nous. Bon, de plus en plus, parce que justement, elle a développé ben, cette confiance en eux et se lâcher prise. Mais les enfants, ils peuvent très bien comprendre qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire avec un tel, d'autres pas, qu'il y a des choses. Moi, ça m'est déjà arrivé de leur dire, écoute, je sais que tu es capable de le faire, mais moi, là, j'ai pas assez fait de travail sur moi, j'ai pas assez travaillé sur moi pour pas avoir trop peur, en fait, quoi. Donc, tu pourras le faire avec un tel, tu pourras le faire avec papa s'il est d'accord et tout ça, mais là, avec moi, vraiment, ça me fait trop peur, je me sens trop mal de devoir faire ça. Et absolument jamais,
Non, mais c'est
jamais,
ça.
ils ont insisté. Quand je parle de moi en disant que ça vient pas d'eux, ça vient de moi, que c'est pas eux le problème, que c'est pas eux qui sont pas capables, mais c'est que moi qui suis pas capable, en fait, quoi. Pas capable de faire le travail sur moi, de lâcher prise. À ce moment-là, ça s'est toujours bien passé. Et ce lâcher prise, moi, je m'en suis. Parce que, comme je te dis, c'est quelque chose qui me fait peur depuis qu'ils sont tout petits. C'est de tomber. Je veux dire, avant même d'avoir des enfants, quand j'étais enceinte, j'avais peur que la sage-femme l'échappe quand il allait naître. J'avais peur. Enfin, toutes les choses que j'avais entendues, elles étaient tout le temps dans ma tête. Enfin, donc après, j'avais peur de tomber dans les escaliers avec eux. Après, j'avais peur qu'ils tombent tout seuls dans les escaliers. Après, quand ils étaient sur un muret, j'avais peur qu'ils tombent. Enfin, bref, c'est ma grande peur, quoi. Et donc, je les ai inscrits au parcours. Non, c'est pas. Je les ai inscrits. Disons que c'était. Ils ont toujours, voilà, crapahuté partout et tout ça. Et de me dire, donc je leur ai parlé de ce sport-là. On avait la chance d'avoir une association qui proposait des cours pour les enfants de leur âge. Et donc, du coup, de me dire, ils vont apprendre encore plus à être dans des situations qui me paraissent dangereuses, parce que le parcours, je veux dire, ils vont haut, ils vont loin, ils sautent loin, ils vont vite. Et de me dire, ils vont avoir les outils pour être en sécurité, parce que le parcours, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils t'apprennent à faire en fonction de toi. Il n'y a pas un parcours unique, en fait. C'est-à-dire que le parcours qu'ils vont faire pour faire, donc ça va être, donc là c'était en intérieur pour les petits à l'intérieur. Le principe du parcours, c'est d'aller n'importe où, en ville, en forêt, à la campagne, n'importe où, et de se faire un trajet dans la tête et de le faire le plus vite possible. Donc ça va être grimper, passer sous un banc, par-dessus une barrière, etc. Donc là c'était en intérieur, mais bon, ça n'empêche qu'ils allaient tout en haut des espaliers, voilà. Et là, tu as juste un tout petit tapis de mousse en bas et tu te dis, s'il tombe, il peut se faire mal. D'ailleurs, il s'est cassé le poignet. Mais bon, rien à voir avec le parcours. C'était juste un coup de pas de bol avec une fenêtre, avec une poignée de fenêtre qui l'a retenu au mauvais moment.
Il y a aussi les accidents de la vie qui arrivent. Hein,
voilà,
tu vois,
c'était ça. C'était pas du tout en lien avec ça. Mais voilà. Et puis, bon, hein, une enfance sans se casser quelque chose n'est pas une enfance. Ça montre quand même qu'il y a de la vie.
Je me suis jamais rien cassé.
Ah, mais il y a encore temps. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que de les laisser, en fait, faire, de les inscrire à des choses comme ça, ou de faire des activités avec eux, pas forcément inscrire quelque part, mais pour voir qu'ils vont développer des outils, des choses qui vont leur permettre d'être encore plus en sécurité, quand nous, on les verra haut, etc., d'être encore plus en sécurité. Et nous-mêmes, je veux dire, quand je vois en fin de cours, je vois un parcours, je me dis, ouais, il est capable de faire ça. Du coup, ça ne me dérange plus de le voir monter un échafaudage. Il y avait, sur ce papier, il y avait un échafaudage pour le toit. Et ben oui, il dit, oh, j'aimerais bien monter ça. Je dis, bah, écoute, tu te sens capable, je monte, quoi. Donc, il est monté au poteau de l'échafaudage, puis il est redescendu par l'échelle. Et voilà, on était en bas, on l'observait, on le regardait, et chaque geste est calculé. C'est ça qui est génial, c'est que maintenant, de le voir comme ça, de les voir, parce qu'ils sont deux à crapahuter partout maintenant, de les voir, que chaque geste est conscient. Il y a toujours les trois points d'appui, quand ils ne le sont pas, c'est parce qu'ils sont hyper stables. Et voilà, je sais que ça a démarré au moment où je me suis dit, tiens, je vais te laisser au sol et je vais t'accompagner dans ton développement sans freiner ton truc, quoi. Et voilà, ouais, ça, c'est encore une fois là, un cadeau sur voir. On a offert des choses. Alors, bien sûr que chacun va pouvoir offrir ce qu'il peut. Alors, moi, il y a plein de fois où il n'a pas pu faire quelque chose parce que voilà, j'ai des peurs complètement infondées, je ne sais pas d'où elles me viennent, mais qui font que je l'ai freiné sur plein de choses. Mais ça n'empêche que malgré ça, il a réussi à dissocier, c'est les peurs de maman, c'est pas les miennes, c'est pas parce qu'elle a peur que je suis pas capable de le faire, et parce que j'en ai parlé en ces termes-là, parce que j'ai pas dit non, tu vas tomber, ou non, tu vas. Voilà. Faire attention à ces petites choses-là, je pense que ça permet à l'enfant de dissocier plus facilement les peurs des parents.
La fameuse différence entre tu vas tomber et j'ai peur que tu tombes.
Exactement, ouais, c'est ça. Et encore mieux, de développer sur. Parce que bon, dire j'ai peur que tu tombes, ça peut encore envoyer le message. Parce que t'es pas capable, tu vois. Mais voilà, c'est un premier pas qui est super important, je pense, pour pouvoir faire la différence pour l'enfant. Mais après, ne pas hésiter à continuer, en fait, à dire c'est ma peur. Je sais que t'es capable, mais c'est ma peur à moi et avec moi, c'est pas possible de faire ça. Ou alors, vas-y, je te fais confiance. Bon, j'ai ma peur en moi, mais je te fais confiance. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps où bon, j'étais en train de papoter, on était dans un parc, et mon enfant il grimpait à l'arbre, sauf qu'il a pu monter, mais pas descendre. Il a pu monter à un moment donné, mais il ne trouvait plus la manière de descendre de l'arbre. Et il était haut, bien trop haut pour moi, enfin pour que je n'ai pas les jambes qui flageolent, quoi. mais par contre, j'ai pris sur moi, je lui ai pas dit j'ai peur, c'était pas le moment du tout, parce que lui commençait à paniquer, parce que moi j'étais enceinte, je pouvais pas du tout monter, la personne qui était avec moi pouvait pas aller le chercher non plus, personne ne pouvait aller le chercher, on n'avait pas les moyens d'aller le chercher, donc il fallait qu'il le fasse tout seul, quoi. Donc là je l'ai accompagné en lui disant bon, je suis avec toi. Je sais que voilà, je reste là. Si tu tombes, j'amortis, t'inquiète pas. Je vais essayer de t'aider à trouver le. Voilà, comme on peut voir aussi dans les salles d'escalade où c'est beaucoup de coopératifs. Oh bah tiens, par là, ta main, tu peux la
Ouais.
poser là. Ah bah regarde, cherche. Puis quand tu es en panique, redescends un tout petit peu, t'as quelque chose. Et ben en fait, on a fonctionné pareil, quoi. C'est tiens, ici, là, laisse-toi glisser un tout petit peu, tu vas sentir sous ton pied, etc. Et j'ai, à partir du moment où je lui ai dit, oh bah c'est pas grave, je vais t'aider avec la voix, et ben pouf, il appuie. J'ai plus senti du tout la panique qui montait en lui. Il est redescendu et il s'est de nouveau fait confiance. Et moi, à ce moment-là, ça m'a permis aussi de faire un travail sur moi. C'est-à-dire, voilà, les faits sont là. Je ne peux pas aller l'aider, je ne peux pas aller le chercher. Je trouve qu'il est en danger parce qu'il est trop et qu'il ne peut pas descendre. Donc, bah, il va falloir que je fasse ce travail sur moi aussi, quoi. De faire redescendre cette panique qui va servir à rien du tout, quoi. Et puis, voilà, de prendre sur moi, de parler avec une voix calme, posée, tranquille, il n'y a pas d'urgence. Il peut rester là pendant 1 heure et prendre son temps pendant 1 heure, et bien il prendra son temps pendant 1 heure pour redescendre. Et puis, mais quand il a atterri par terre, la fierté dans ses yeux, quoi. C'est-à-dire qu'il était coincé et il a réussi à se défaire complètement seul de cette impasse dans laquelle il s'était mis, quoi. Donc,
Ah, c'est beau ça.
ouais, voilà,
C'est une belle histoire.
c'est un lâcher-prise qui a permis, c'est ça, c'est mon lâcher-prise qui a permis à lui de lui renvoyer sa confiance qu'il avait déjà, mais voilà, dans la panique, elle avait besoin d'être rappelée, quoi.
Bah écoute, merci beaucoup Virginie. Je crois qu'on est arrivé au bout du sujet.
Bah oui, je crois que que je voulais te dire, j'avais rien d'autre à dire. Ouais. J'espère avoir fait le tour.
Bah, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt.
À très bientôt. Salut.
Salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.